Tout de suite notre émission avec À Fleur de Pierre.
Sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le
Voilà cette jolie chanson pour ouvrir cette émission avec Eric, bénévole à l'association À Fleur de Pierre, et Mathilde, tous les deux donc venus nous voir aujourd'hui pour nous donner l'actualité de l'association. On commence avec vous, Eric. Vous êtes bénévole.
Bonjour.
Bonjour. Bénévole, membre actif.
Oui, je suis donc bénévole depuis pas mal d'années à l'association. Et j'ai aussi une casquette en tant que membre du CA, donc de l'association, dans laquelle j'essaye de participer à au fonctionnement privilégiant les fondamentaux de l'association.
Alors on va rappeler, c'est une association qui a quelques années maintenant, À Fleur de Pierre, qui a créé de nombreux jardins solidaires.
Ben oui, c'est ça, c'est une association donc, qui est implantée depuis plus d'une dizaine d'années sur Digne, et donc qui a comme objectif de privilégier l'écologie au sens large du terme, avec donc un volet qui est un volet concernant l'écologie au niveau de la culture. Donc dans les jardins, on fait des cultures sans engrais, sans pesticides, évidemment, en respectant le sol, en ayant des pratiques culturales qui soient les plus respectueuses possibles. Et parallèlement à ça, il y a un volet écologique aussi, qui est plus l'écologie humaine. Et donc ça concerne tout ce qui est la qualité des relations entre les personnes, donc qui touche aussi bien l'intégration des personnes qui sont un peu isolées, l'échange interculturel, et puis la transmission de savoir aussi entre les différentes personnes, donc que ce soit des salariés qui ont une compétence, et en même temps développer aussi les compétences, développer et transmettre les compétences des bénévoles.
Alors c'est donc à base d'agriculture biologique, de culture biologique, et donc des rapports humains intéressant. Est-ce que ça s'est toujours bien passé entre chaque parcelle de terrain et chaque personne responsable de sa parcelle ?
Alors, il s'agit de relations humaines. Donc, les relations humaines, par définition, c'est jamais simple.
Oui.
Et concernant mon expérience, c'est un lieu d'apprentissage. Parce qu'en fait, je peux parler de moi, puisque...
Donc vous êtes jardinier, vous faites aussi...
Oui, moi je suis jardinier, mais en fait au départ ce qui m'a intéressé dans l'association c'était pas le jardin, parce que le jardin c'était pas ma tasse de thé, j'y comprenais absolument rien, et ce qui m'intéressait c'était les valeurs de l'association. Et j'ai adhéré.
Donc les valeurs de partage ?
Oui, les valeurs de partage, de transmission, d'échange, et puis cette notion d'écologie au sens large dont je parlais précédemment. Et j'ai eu la chance de pouvoir prendre un jardin, si vous voulez, qui était disponible pendant une saison de jardinage, puisque les personnes qui avaient la parcelle étaient parties en voyage. Donc j'ai tenté l'expérience avec ma compagne. Et puis dès que j'ai mis les mains dans la terre, je me suis aperçu que c'était quelque chose de fabuleux. Et donc,
c'est une découverte alors.
Ah, pour moi c'était une découverte.
Oui. Ah oui.
Et en fait au départ je pensais que le jardinage c'était de mettre une graine dans la terre, installer une chaise longue et puis attendre que ça pousse pour récolter. Et en fait je me suis aperçu que c'était pas du tout ça, c'était beaucoup plus compliqué, ça demandait beaucoup plus de travail, mais c'était aussi beaucoup plus valorisant, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche. Ça correspond tout à fait à ce qu'est l'asso, parce que donc cet asso, c'est, à mon avis, c'est une asso qui permet de découvrir tout un tas de choses qui sont donc au niveau du jardinage, mais au niveau des relations humaines aussi. Et donc pour répondre à votre question, effectivement, il y a des difficultés d'échange, des difficultés de cohabitation, mais justement, la richesse de l'asso, c'est que l'ensemble des personnes qui sont parties prenantes sont justement là pour que ces difficultés deviennent transformer une difficulté en quelque chose de positif, puisque c'est le lieu d'apprendre comment est-ce qu'on va gérer une difficulté, comment est-ce qu'on va passer par-dessus, puis comment est-ce qu'on va aller vers quelque chose de positif. Et en fait, c'est une... Mais en fait, ça représente ce qui se passe dans un jardin aussi, puisqu'on est confronté à des ravageurs. Et soit on a une relation de force avec la nature, soit justement on va chercher le consensus, on va chercher comment est-ce qu'on peut faire en harmonie. Et moi, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans cet asso, c'est que c'est quelque chose qu'on trouve dans la pratique jardinage, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la pratique humaine.
Alors, il y a possibilité de se faire remplacer pendant un temps, ça existe ça, puisque le jardin, ça prend beaucoup de temps.
Mmh. Mais de toute façon, à mon avis, le principe, c'est que rien n'est figé, en fait. Et tous les possibles sont ouverts, et tous les lieux d'expérimentation sont ouverts aussi. Et en fait, c'est encore une fois une des richesses de l'asso, c'est que chaque jardinier ou bénévole n'est pas adhérent pour entrer dans un moule, mais est adhérent pour être acteur de ce qui s'y passe. Et en fait, l'asso évolue et continue à évoluer, justement avec l'apport de toutes les personnes qui y sont, et qui vont, dans le cadre du respect des valeurs de l'asso, évidemment, faire évoluer cette association et puis tenter des nouvelles expériences et puis aller vers du nouveau. Et puis c'est une aventure qui est une aventure humaine qui continue et qui évolue au fur et à mesure des événements extérieurs et puis au fur et à mesure des apports de toutes les personnes qui y sont, quoi.
Alors ça mobilise beaucoup de personnes pour les jardins, les parcelles se sont agrandies. Enfin, combien il y a de parcelles de terrain aujourd'hui et combien de familles s'occupent de ces parcelles?
Alors là, on a en fait on a 4 jardins actuellement. Et donc il y a le jardin historique qui est le jardin des Facélis, qui est dans le quartier de la Sèbe, qui est le premier jardin qui a été créé. Puis il y a eu un jardin dans le quartier du Pigeonnier qui s'appelle le Jardin des Cerises. Au centre-ville, il y a un petit jardin qui s'appelle le Jardin des Grelinettes. Et le dernier jardin en date est le Jardin des Eaux Chaudes qui est à côté des thermes. Et donc, chaque jardin donc, a des tailles assez différentes. Avec sur le Jardin des Facélis, on a 11 ou 12 parcelles. Sur le jardin des cerises, on en a à peu près le même nombre. Le jardin des Grelinettes est un tout petit jardin entouré d'un mur, c'est très confidentiel, et là, il n'y a que 5 parcelles. Et après, on a le jardin des Jossaudes, qui, lui, a une quinzaine de parcelles, qui est beaucoup plus grand, quoi.
Alors, ce sont toutes...
36 parcelles. D'accord. 36 parcelles.
Pardon, Mathilde, j'avais pas mis...
C'est pas grave.
36 parcelles, donc. Ce sont tous des jardins qui ont été... qui sont prêtés par des particuliers, par la ville, qui sont loués. Non, c'est gratuit, hein.
Alors, en fait, ce sont des parcelles qui sont soit des parcelles communales, soit des parcelles qui appartiennent à des privés. Et certains jardins sont moitié communal, moitié privé. Et donc, les terrains sont mis à disposition. Et donc, avec des conventions, et l'association gère ces jardins avec des parcelles qui sont des parcelles qui ont une surface de 70 mètres carrés à peu près. Et chaque personne qui bénéficie d'un jardin a en charge le travail et l'entretien de sa parcelle et en même temps a en charge aussi la participation à l'entretien de la zone collective. Parce qu'en fait, dans chaque jardin, il y a une partie collective, donc qui comprend un cabanon avec de l'outillage qui est mis à disposition, et toutes les zones qui sont non cultivées, mais qui nécessitent d'être entretenues, que ça soit en... Par exemple, faucher l'herbe pour que les graines n'envahissent pas les jardins. Et puis, certains jardins ont des arbres fruitiers qu'il faut entretenir, tailler. Et puis, il y a aussi tout l'aspect qu'on peut appeler la propreté donc l'entretien courant d'un lieu, quoi.
Donc vous avez débuté un peu par hasard pour faire remplacer quelqu'un pendant ses vacances et après vous avez donc mordu à l'hameçon, si on peut dire, et vous avez demandé vous aussi une parcelle ?
Voilà, c'est ça. Et en fait, la première année, ça a été une année qui a été assez chaude, puisque donc on avait cette parcelle en prêt pour... la période estivale, et il y avait une parcelle sur le jardin des Facélies qui était une parcelle commune. Et cette parcelle commune n'étant pas cultivée, on nous a proposé l'entretien d'une partie de cette parcelle. Donc là, on avait déjà une surface importante, et une parcelle s'est libérée dans le même temps. Et donc la première année, pour un début, on a cultivé l'équivalent de 2,5 parcelles. Donc ça a été, c'était très intéressant parce que pour un début, ça a été un début où on a été vraiment immergé de suite dans la culture.
Et c'était en quelle année que tu as eu cette parcelle ?
Alors ça, je ne sais pas, je pense qu'il y a 7-8 ans à peu près.
Ok.
Alors Mathilde, on va peut-être venir à l'actualité. Enfin, on va rappeler aussi, c'est une association qui a bougé puisqu'il y avait quelques salariés et malheureusement il a dû falloir se séparer de certains à cause des manques de subventions, j'imagine.
C'est ça, il y a eu une diminution des subventions, notamment de la part de la région. Et donc... De 8 à 9 salariés, aujourd'hui on est passé à 5 salariés. Et donc dans l'équipe salariale, il y a deux sous-groupes. Il y a l'équipe animation, composée de Christelle, qui est l'initiatrice de l'association et la coordinatrice. Voilà. Et moi, qui est en charge de l'animation environnement et de la communication de l'association. Et dans l'équipe agro, donc agroécologie, qui s'occupe du compostage et également qui fait quelques prestations paysagères solidaires auprès de particuliers. Et donc l'équipe agro est composée de Hervé, l'encadrant technique, et Valou et Vincent, qui sont ouvriers en agroécologie.
Ça a dû, j'imagine, cette baisse de subvention de la région, enfin cette suppression de... Suppression ou baisse ?
Suppression.
Suppression, hein, ils ont tranché la région hein, sur beaucoup de domaines. A fait que par rapport aux suppressions de postes, mais aussi par rapport aux animations que vous faites régulièrement chaque année, comme le jardin en fait, est-ce que ça change quelque chose ?
Alors, juste pour revenir sur la suppression de postes, en fait, oui. Ce sont des postes qui n'ont pas été renouvelés. Donc on est allé au bout du contrat et donc on n'a pas pu renouveler ces postes. Et c'est à mettre aussi en lien avec les difficultés d'avoir des postes en contrat aidé. Voilà, soutenu par l'État d'un point de vue financier. Et à propos des activités de l'association, par exemple, on peut mettre en lien Jardin en fait, qui est notre fête annuelle, qui cette année aura lieu le 12 mai, un samedi, de 13h à 23h, et qui cette année est uniquement bénévole. Donc les jardiniers et les bénévoles de l'association qui souhaitent participer à l'organisation de la fête sont les bienvenus.
De quelle heure à quelle heure, pardon ?
De 13h à 23h.
C'est une nouveauté, d'habitude c'est sur deux jours au moins.
L'année dernière, c'était déjà sur une journée, c'était un dimanche, mais c'était plutôt toute la journée. Et donc, les salariés mobilisaient beaucoup les personnes et encadraient des petits groupes pour leur offrir la possibilité d'exprimer leur savoir-faire, que ce soit dans le jardinage, mais aussi tout autre, puisqu'il y avait des stands qui étaient de l'ordre de l'art et loisirs, par exemple avec de la récup, allant à un groupe de musique, en passant par des ateliers de jardinage.
Il y avait des balades ornitho, il y avait des personnes qui présentaient tout un tas d'activités artisanales et avec la possibilité pour les visiteurs de participer à ces activités pendant la journée.
Il y avait aussi des stands de partenaires, des partenaires locaux de Digne. On peut penser à l'atelier partagé, à J'espère, à la LPO, qui participe aussi à cette fête activement en tenant un stand ou en proposant une activité en lien avec leur cœur de métier ou leur cœur d'association.
Donc tout ça, c'est les partenaires, ateliers partagés, J'espère, et la LPO.
Voilà, bon, j'en ai sûrement oublié plein d'autres. Désolée. Mais voilà, on est ouvert aussi à d'autres partenariats. Il y a aussi des associations, l'association O'Neill qui était un peu plus loin, qui a fait une découverte en lien avec les plantes tinctoriales. Mais il y a aussi des bénévoles au sein de l'association qui, eux, proposent des ateliers clés en main. Je pense à Liliane et Jean-Paul. Voilà. Mais il y a aussi des bénévoles qui aimeraient aider sur une activité, qui ne savent pas trop où aider. Il y a quelqu'un d'autre qui a une idée. Et voilà, ça forme un binôme ou un trinôme. Et donc, ça permet aussi aux gens de participer à la fête en donnant de leur temps pendant 2 heures, 3 heures. Et le reste du temps, ils peuvent participer aux autres activités.
Ça fait une belle petite micro-société solidaire et environnementale, oui ?
Oui, mais cette année, en fait, c'est l'occasion de renforcer le principe de fonctionnement en réseau. Puisqu'en fait, chaque jardinier ou bénévole, en général, ne se contente pas d'être jardinier ou bénévole à Fleur de Pierre, mais a aussi d'autres engagements auprès d'autres associations. Et en fait, le fait que les bénévoles reprennent l'organisation de la journée fait que chacun amène aussi, de par son appartenance à différents réseaux, la participation d'autres structures. Et je pense par exemple à Bien Vivre Ensemble, qui s'implique aussi très fortement cette année avec nous. Et il y a énormément de bénévoles qui vont proposer une participation ou des animations qui sont en lien avec d'autres structures ou d'autres réseaux, d'autres associations. Et donc là, pour l'instant, comme le projet n'est pas totalement défini, on peut éviter de froisser les uns et les autres en ne citant pas tout le monde, en se cachant un peu derrière le fait que tout n'est pas bouclé.
Oui, oui, c'est ça.
Donc ça, c'est la grande journée, c'est le samedi 12 mai.
Voilà, c'est au quartier Pigeonnier-Barbejas.
Voilà, c'est donc, toujours au Jardin des Cerises, c'est
au ça Jardin des Cerises, voilà. À la Salle Perchaud et au stade de foot.
Voilà. Oui.
Et donc, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, là, sur la durée de la fête, en fait, les années précédentes, Jardin en fête s'inscrivait dans Cité Solidaire en mai.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et en fait, cette année, Cité Solidaire en mai n'aura peut-être pas lieu. Et donc, à Fleur de Pierre fonctionne indépendamment de Cité Solidaire, qui était la manifestation qui regroupait différentes actions pendant ce fameux mois de mai.
Et j'imagine qu'il y a d'autres animations dans l'année, non? Ou au printemps, il n'y a pas que ça, il y a des formations aussi au jardin
Oui. À l'association, on propose des ateliers, des formations sur l'agroécologie. Notamment, chaque nouveau jardinier est invité à une formation sur les fondamentaux au jardinage au naturel, animé par Christelle. Il y a aussi des ateliers intitulés Les engrais verts, enrichir son jardin au naturel, la technique de la butte de culture. Donc ça, c'est plutôt à l'automne. Et là, au printemps, on a un atelier taille douce des fruitiers et de la vigne qui a lieu au jardin des Facélies. Donc cette année, c'est le samedi 10 mars de 10h à 16h. Voilà.
Et où ?
Au jardin des Facélies, donc quartier du Moulin, 7B rue du Moulin, je crois.
Quartier du Précis. Moulin. Et ça, c'est ouvert à tous ?
Oui. Alors, en fait, toutes les formations et les ateliers sont ouverts à tous les adhérents. Et l'adhésion est de 15€ pour une personne et de 20€ pour un couple ou une famille. Donc ça, c'est pour l'année en cours. Et voilà. Mais quand on est adhérent, on peut aussi bénéficier de l'accès à de la documentation, puisqu'on a une bibliothèque au siège de l'association.
Siège qui se trouve toujours dans la Montée Saint-Jérôme,
est-ce que c'est... C'est Montée Saint-Charles.
Montée Saint-Charles, oui, ouais. Pardon.
Non, c'est pas grave. C'est 23 Montée Saint-Charles, mm-hmm. Voilà. On peut aussi initier des ateliers, puisque là, avec... deux bénévoles, je suis en train de préparer des ateliers. Donc un atelier fabrication de pain avec Bastien, qui aura lieu le 16 mars et le 17 mars. Donc du pain bio avec du levain naturel. Et ensuite, on fera la cuisson le lendemain au Jardin des Cerises, dans un four en terre paille, qui avait d'ailleurs été construit lors d'un jardin en fête précédent. Et donc, avec une autre personne, on est en train d'organiser un atelier sur la mise en place de nichoirs à oiseaux sur le parcours biodiversité, qui est un parcours ouvert au public, situé juste derrière le jardin des eaux chaudes, enfin juxtaposé au jardin des eaux chaudes.
On pourra retrouver tous ces détails sur le site de La Fleur de Pierre.
Voilà,
c'est ça. Il y aura le programme détaillé avec les numéros de téléphone pour s'inscrire.
Voilà, c'est sur inscription.
D'accord. Donc, fabrication de pain avec Bastien du 16 au 17 mars, voilà. Avec une cuisson le lendemain au Jardin des Cerises, dans un four en terre paille, c'est ça ?
Oui.
Alors, c'est un four qui a été construit et mis en pratique l'année dernière, Eric ?
Alors non, c'est un four qui a été mis en place lors d'une fête des jardins il y a quelques années. Et donc, c'est un intervenant extérieur qui a proposé cette animation. Et durant la journée, la construction a eu lieu. Et en fait, c'était un moment qui était vraiment très, très intéressant. Puisqu'on est parti de zéro, et à la fin de la journée, le four était construit, quoi.
C'est pas le four où vous avez fait il y a eu des pizzas faites ?
Oui, c'est ce four-là. Ouais. Et en fait, donc, c'est une technique qui a permis de construire ce four sans moyens mécaniques. Et donc, c'était très intéressant, puisqu'on a foulé au pied dans une auge de l'argile. Donc les participants à la fête, ben, se sont mis pieds nus et puis on marchait dans cette argile pour le fouler. C'était rigolo puisque c'était accompagné de chansons. Hein. Et la personne qui était animatrice de l'activité donc, nous a appris à construire ce four en incorporant de la paille avec donc, toute une technique de construction et évidemment une forme spécifique, enfin... Et donc, au fur et à mesure de la journée, les différents visiteurs de la fête ont pu participer à cette construction. Et donc, depuis quelques années, ce four est utilisé très régulièrement pour, justement, lors des fêtes de jardin, faire des pizzas. Et puis, lors de toute autre animation au Jardin des Cerises, ça a servi à cuire du pain, à faire différentes, des gâteaux, enfin différentes choses, quoi.
Alors là, justement, par rapport au jardin, en fait, le 12 mai, puisque ça commence à 13h, il n'y aura plus cette restauration.
Alors, non, puisque la restauration était organisée par l'association en lien avec tous les bénévoles qui devaient ramener un plat. Et donc, c'était assez lourd en termes d'organisation. Et cette année, on a opté plutôt pour, du coup, pour 13h, 23h, puisque le soir, on pense que ça sera sûrement formulé sous la forme d'un repas partagé. Donc, celui qui veut venir aussi uniquement le soir, il peut. Et ça sera accompagné d'une ambiance musicale avec différents groupes. Donc, voilà. Et donc... tous ceux qui ont envie de jouer de la musique pourront s'exprimer ou chanter ou animer des danses. Voilà. On réinvente un peu Jardin en fête avec les moyens du bord et surtout toutes les envies et toutes les bonnes volontés des bénévoles. Donc il y a aussi différents groupes qui s'organisent. Et je fais un clin d'œil à Hélène qui est trésorière... à l'association et qui est aussi un peu en coordination de cette fête, enfin un peu beaucoup même, puisqu'elle anime des réunions de préparation pour Jardin en fête 2018. Et donc, au sein de cette préparation, il y a différents groupes. Le groupe communication, le groupe animation, le groupe... Interface mairie, le groupe buffet, buvette. Donc il y aura toujours une buvette l'après-midi et le soir, ça c'est maintenu. Et un dernier groupe.
Musique.
Musique, oui, le groupe musique. Du coup. J'en ai parlé avant, mais je ne l'ai pas nommé. Voilà. Donc tous ceux aussi qui souhaitent participer à cette fête ou qui se sentent de donner un coup de main en amont ou le jour de la fête... voilà, vous pouvez venir toquer au 23 à Montée-Saint-Charles.
On rappelle le numéro de téléphone de l'association ?
Alors, le numéro de téléphone de l'association, c'est le 04 92 31 69 74.
Eh bien, merci. Qu'est-ce que... Oui, Eric.
Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que il y a le... une opération de compostage qui est en cours depuis quelques années. Et donc, par rapport à ce que disait Mathilde, au niveau des subventions, on a eu des petites difficultés. Enfin, ça a marché, ça a plus marché, ça a remarché. Et donc, là, actuellement, on espère que le compostage va pouvoir se remettre en place d'une façon importante, en prenant en compte le fait que les communes et les agglos vont bientôt être obligés de composter leurs déchets ménagers. Et en fait, ça permettra, on l'espère, à l'association de pouvoir utiliser son savoir-faire et sa technicité qui est reconnue en tant que composteur.
Il y a eu beaucoup d'actions l'année dernière et les années précédentes avec les grandes surfaces comme Carrefour ou les restaurants.
Oui, il y a eu beaucoup d'actions, mais le problème auquel nous...
Ça s'est pas poursuivi ?
Le problème auquel nous avons été confrontés, c'est que ces actions nécessitaient un financement puisqu'il y avait l'intervention de personnel salarié. Et en fait, par rapport à ces financements, nous avons eu des soucis. Et donc, à un certain moment, on s'est posé la question de savoir si on était en mesure de continuer ou pas ces actions. Et nous avons pris l'option de continuer malgré tout les actions, enfin certaines actions de compostage, même si nous n'avions pas des financements, parce que ça nous paraissait quelque chose de totalement indispensable. Et là, nous espérons réavoir des nouveaux financements de façon à ce que les actions de compostage puissent continuer, puisque jusque-là, on avait des actions qui étaient faites, mais qui n'étaient pas financées, et donc ça posait un sacré problème à l'assaut, quoi.
Voilà. Et donc actuellement, au niveau du compost, ce qui existe au sein de l'association, au Jardin des Cerises, on a une station de compostage de proximité. Donc il y a des poubelles qui sont situées au Pigeonnier Barbejas, qui sont collectées par l'équipe et qui sont compostées à l'aide de broyats. Et sur le jardin des eaux chaudes, il y a aussi une station de compostage qui, elle, accueille la nourriture, enfin les résidus de nourriture des cantines du collège Borély et de l'école Paul Martin. Donc voilà. Donc c'est quand même. Il faut savoir que le compostage, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, puisqu'il y a aussi. Donc il y a l'incorporation du broyat. Il y a le taux d'humidité à contrôler, à arroser en été. Il faut retourner le compost. Voilà, c'est une activité qui demande du temps salarié et qui demande du temps aussi pour avoir du compost. Et du coup, ce compost est mis à disposition des jardiniers. Ensuite, au jardin des Facélies, au jardin des Grelinettes, ce compostage se fait de manière un peu plus autonome et est pris en main par les jardiniers. Voilà, c'est eux qui s'organisent et qui ont la technique.
Et vous-même, vous êtes formée au jardinage biologique?
Alors, je me forme dans mon petit jardin au fur et à mesure. Et je suis, d'un point de vue de mes études, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Et j'ai poursuivi avec une licence pro coordination de projet dans l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc mon domaine, c'est plus l'animation nature, l'animation en lien avec les enfants. J'interviens dans le cadre périscolaire auprès des enfants, deux fois par semaine dans les écoles de Digne, et aussi dans un cadre scolaire. Par exemple, en lien avec Christelle, on est en train d'initier un jardin, enfin on va l'initier, dans la commune de Trigance, en lien avec le parc du Verdon. Voilà.
Christelle, qui est Christelle Ferré, directrice de À Fleur de Pierre.
Voilà, c'est ça. C'est elle qui est initiatrice de l'association, qui va avoir 11 ans cette année. Mmh. Et voilà, tout a commencé avec la volonté d'allier des terrains qui étaient en friche et de mettre ces terrains à disposition des personnes qui habitent en appartement, qui n'ont pas accès à la terre.
Est-ce qu'il y a eu, alors puisque vous, Eric, vous êtes présent depuis longtemps dans l'association aussi, est-ce qu'il y a des familles qui ont abandonné leur parcelle pour, qui ont abandonné?
Oui, bien sûr.
Tout
à fait. Et en fait, au niveau de l'occupation des parcelles, il y a une rotation naturelle qui s'effectue. Alors, en fait, il y a tout un tas de raisons qui peuvent être, par exemple, le fait que des jardiniers débutants, comme ça a été mon cas, finalement trouvent que c'est trop difficile ou que ça ne correspond pas à leurs attentes. Mmh. Après, il y a des personnes qui, pour des raisons personnelles, ça peut être une évolution de leur vie familiale, ça peut être des déménagements. Donc, laissent leur parcelle. Et en fait, ça correspond au principe de fonctionnement de l'association, c'est-à-dire qu'une parcelle se libère et est remise à disposition d'une autre personne. Et en fait, ça correspond aussi à à un postulat, c'est-à-dire que la terre n'appartient pas à quelqu'un. La terre, elle est remise entre les mains de quelqu'un pour qu'il la soigne et pour qu'il la maintienne en bon état. Et on n'est pas propriétaire de la terre. C'est, à mon avis, c'est un non-sens. Et on est juste là, de toute façon, de passage. Et le passage qu'on y fait, il faut qu'il soit le plus positif possible. Et ce qui correspond à la façon dont les parcelles sont attribuées au fur et à mesure qu'elles se libèrent. Et donc, par rapport à justement l'occupation des parcelles, si des personnes sont intéressées pour avoir des parcelles, c'est en ce moment qu'il faut se manifester auprès de l'association, puisque dans différents jardins, il y a des parcelles qui sont susceptibles d'être disponibles. Mmh. Et le principe, donc, c'est un principe qui se fait sur la base d'une inscription et d'une attribution par ordre
De demande.
Ordre de demande, voilà, mmh. C'est ça. Et donc, en fait, au moment de l'attribution, il y a une rencontre dans laquelle on explique aux personnes comment fonctionne l'association et comment s'entretient la parcelle, avec cette notion dont on a parlé tout à l'heure de parcelle qu'on peut dire individuelle et de zone collective dans le jardin. Et donc, si les personnes adhèrent à cette... à ce principe de fonctionnement, on leur attribue une parcelle et donc après charge à eux.
Est-ce qu'ils peuvent se former au fur et à mesure, et avoir des conseils en amont avant de prendre la parcelle ou
Alors il y a différentes manières d'avoir des conseils en jardinage. Tout d'abord, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a la formation sur une journée que propose Christelle. Il y a toujours la possibilité d'appeler à l'association et de demander s'il y a quelqu'un qui pourrait venir conseiller, puisque c'est aussi quelque chose qui est présent dans la convention que signe le jardinier avec l'association. Donc la personne a des engagements, mais l'association aussi en a. Et... Bah, le jardinage, il faut s'essayer. Hein, et on ne réussit pas tout de la première fois. Voilà, on se dit que bah, la paille, finalement, c'est pas mal pour l'été, pour arroser un peu moins souvent. Et il y a surtout y a cette entraide qui se fait un peu naturellement entre jardiniers, et les conseils des plus anciens permettent en fait... aux plus nouveaux ou aux plus novices de réussir ces cultures ou d'échanger. En fait, c'est le principe que, comme les parcelles sont vraiment juxtaposées, un peu naturellement, on va discuter avec son voisin. Ah, tu sais comment on fait pousser des carottes, j'y arrive pas. Et donc, la personne va donner ce qu'elle sait faire. Voilà.
Il n'y a pas de vol au niveau des jardins?
Alors c'est assez marginal, bon ça arrive puisqu'on est encore une fois sur des relations humaines avec tout ce que ça peut comprendre, mais en fait ça reste assez marginal et ce qui est quand même le plus récurrent et le plus régulier au jardin, c'est pas l'aspect négatif mais c'est l'aspect positif parce qu'en fait, comme disait Mathilde, il y a cette notion de compagnonnage qui est quand même... très, très développé au sein des jardins. Et au jardin, on n'y fait pas que jardiner non plus. C'est un lieu où, puisque les jardins s'adressent quand même aux personnes qui n'ont pas de jardin privatif, et donc c'est un lieu qui permet de pouvoir se rencontrer. C'est un lieu où on va pour manger aussi, et puis passer un bon moment. Et au sein de la parcelle, les jardiniers ne sont pas tenus à faire des cultures maraîchères uniquement. On peut très bien envisager, et c'est le cas dans certains jardins, que des personnes fassent essentiellement des cultures de fleurs. Et puis, c'est tout à fait possible et recommandé d'installer une chaise longue dans son jardin et de pouvoir y déguster non pas ses légumes, mais ses meilleurs bouquins. Ou... de pouvoir observer les oiseaux, les insectes, enfin il y a plein de choses à faire. Et puis bien évidemment il y a tous les enfants qui sont dans les jardins et qui sont beaucoup mieux là que de regarder la télé ou d'être enfermés entre quatre murs, quoi.
Est-ce que les terrains sont équitables au niveau qualité de la terre ?
Oh ben oui, de toutes les façons, sur les... sur les jardins, les parcelles sont, les parcelles attribuées aux jardiniers sont les unes à côté des autres.
Mais par rapport aux emplacements, il y a le jardin des cerises, il y a les facélies, il y a le troisième.
Les eaux chaudes.
Les eaux chaudes.
Et les grelinettes.
Ça fait quatre, voilà. Est-ce que il y a des jardins qui sont plus
Alors là, j'ai pas les notions d'analyse biologique des sols en tête.
Non.
Mais comme on est dans la même vallée, on peut dire qu'à peu près il y a les mêmes conditions de sol. Mm-hmm. Et ça, c'est plutôt une question pour Christelle. Mais après, voilà, il y a quelques différences par rapport à l'ensoleillement. Par exemple, aux eaux chaudes, mm-hmm. il va geler un peu plus tard. Et notamment, c'est le seul jardin qui n'est pas clôturé et du coup qui est un petit peu plus sujet au vol dont vous parliez tout à l'heure. Mais j'ai perdu mon idée, je sais plus. Oui, donc la nature du sol, en gros, on peut, il y a des techniques culturelles qui permettent d'enrichir le sol, donc par le biais du compost, de broyat ou de buts de culture. Donc ces techniques, si on trouve que la terre n'est pas assez riche en nutriments, on peut participer à d'ateliers pour acquérir ces techniques.
D'accord. Eric.
Oui, je voulais juste faire un petit clin d'œil par rapport à cette idée de... cette notion de vol. En fait, il y a aussi quand même une grosse part qui n'est pas due à ça, mais qui est due au partage. Parce qu'en fait, comme on est... inclus dans la nature en tant que personne, il faut partager. Et partager, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de sacrifier aux limaces, qu'il faut accepter de sacrifier aux escargots. Et puis le jardin des eaux chaudes, c'est aussi sacrifier peut-être aux chevreuils, aux sangliers, enfin. Et donc, effectivement, c'est pas toujours très agréable. Mais ça fait partie du jeu, malgré tout.
Il n'y a pas de concours de jardin qui existe à celui qui fera ses plus belles tomates ou
ça ne... Tous les jardins sont beaux, puis ils sont tous différents. Ouais. C'est ça qui fait la richesse. Donc, la richesse des jardins. Ouais. Chaque personne a une conception différente du jardinage et on peut le voir quand on vient visiter les jardins. Que chaque parcelle est différente. Il y en a qui vont avoir plus des structures en hauteur, comme des tipis pour faire grimper les haricots. Il y en a d'autres où il y aura un peu plus de paille. Il y en a d'autres où il y aura une prairie fleurie. Il y en a d'autres où ça va être que des patates. Voilà. Ça dépend aussi des goûts alimentaires des gens. C'est souvent en lien aussi.
Je vous remercie. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important, Eric et Mathilde ?
Non, on peut rajouter peut-être que dans les actions de l'association, l'association a participé par l'intermédiaire de Christelle à la mise en place de jardins partagés sur Barcelonnette et sur Manosque. Et ça fait partie des expertises que l'association maîtrise. Et c'est quelque chose qui est important à souligner, puisque pour ces deux actions, nous avons été sollicités par les structures qui voulaient mettre en place ces jardins.
Voilà, donc à Manosque, les jardins, ils vont se mettre en place cet été.
Super, merci beaucoup Eric et Mathilde. Mathilde
merci
et Eric.
À vous.
Merci.
À Fleur de Pierre, bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Bon, le métropolitain qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, de grâce, monsieur le...